France et États-Unis, un commerce équitable, une émission de Régis Debray. Aujourd'hui, le temple avec Olivier Abel. Il n'existe pas, en tout cas il ne semble pas exister, des civilisations qui n'aient pour fondement une religion. Alors un fondement assumé ou refoulé, peu importe, mais on peut douter de l'affirmation d'André Malraux selon laquelle nous serions la première civilisation qui ne s'appuie pas sur une religion historique, mais seulement sur un système de machines. La civilisation qui aujourd'hui fait tache d'huile, l'américaine, et qui ricoche un peu partout, en France comme ailleurs, a pour point d'appui et fer de lance, faut-il le rappeler, le protestantisme, un protestantisme de fondation, mais revu et transformé en un évangélisme aux facettes multiples. C'est là une donnée sous-estimée dans la France de tradition catholique, même s'il se crée, rappelons-le, sur notre territoire, une nouvelle église évangélique tous les 10 jours. Il y a là un phénomène d'assimilation et de rediffusion, une sorte d'import-export théologique, si vous voulez, qui a aujourd'hui une envergure planétaire. Et cette réalité nous concerne d'assez près, si l'on veut bien se souvenir que Calvin est un écrivain et théologien français né dans l'Oise en 1509 et mort à Genève en 1564. Son Institution de la religion chrétienne fait partie des chefs-d'œuvre de notre littérature, et c'est notre compatriote, plus encore que Luther, qui aura finalement forgé l'identité du Nouveau Monde. Et son nom pourrait être associé, peut-être plus que celui de Lafayette, à la formation psychologique et politique des États-Unis d'Amérique. Raccourci un peu rapide, soit. Et il est vrai que ce transit de Genève à New York a nécessité certaines escales en Angleterre ou ailleurs dont il nous faudra parler. Et pour savoir si ce néo-calvinisme, souvent proche d'un fondamentalisme, comme l'intégrisme concerne le monde catholique, le fondamentalisme concerne le monde protestant. Donc pour savoir s'il y a eu là comme une réforme dans la réforme, et s'il s'agit avec ce réveil d'un revival qui embrasse et embrase divers continents et pas seulement le nôtre, s'il s'agit d'un néo, d'un ultra ou d'un anti-calvinisme, personne ne pouvait mieux répondre à ces questions qu'Olivier Abel, fils de pasteur, professeur depuis plus de 30 ans à l'Institut protestant de théologie et créateur du Fonds Ricoeur. Olivier Abel a signé une remarquable biographie de Jean Calvin avec un post-scriptum que je crois prémonitoire, lettre à un ami américain. Et il pose cette question, à la fois généalogique et politique. Quelle transmutation s'est-elle opérée au cours du passage de la Genève calviniste à l'Amérique puritaine, c'est-à-dire du passage d'une théologie raisonnée de la grâce à une sorte de piétisme émotionnel et, disons-le, populiste, avec, n'oublions pas, un retour vers les lieux d'embarquement, si j'ose dire, qui nous ferait peut-être évoquer une Amérique qui a été religieusement européanisée au XVIIe et XVIIIe siècle, à une Europe aujourd'hui religieusement américanisée, celle du XXIe siècle. Et il y a là une transformation qui, qu'on s'en réjouisse ou non, est de la plus haute importance. Alors je me tourne vers Olivier Abel et je lui demande d'abord quelle est l'actualité de Calvin aujourd'hui et, je dirais, comment est-on passé quasi, géographiquement, de la Genève en 1550 au Cap Cod en 1620 où débarquent des protestants appelés Pilgrim Fathers.
Merci beaucoup Régis pour votre introduction qui vraiment dit l'essentiel de ce que,
à vrai dire, ce que je voulais dire. C'est vous qui allez le dire, l'essentiel.
De ce que je voulais dire, en tout cas, dans cette postface à mon livre sur Jean Calvin, qui est un livre auquel je suis venu lentement. Je suis venu à Calvin en philosophe, pas du tout en historien. Je suis un très mauvais historien et c'est pas non plus en théologien. Je connais pas assez la théologie. J'y suis venu vraiment comme philosophe. J'ai été peu à peu passionné par, je dirais, l'actualité philosophique de Calvin. Et pour revenir à Calvin lui-même, c'est vrai que j'ai découvert que Calvin était, ben c'était la France, au sens où c'est pas seulement la langue française, la langue moderne, doit beaucoup au colportage de tous les écrits de Calvin qui tout au long du XVIe siècle, et la langue de l'institution de la religion chrétienne, de son livre principal qui n'a cessé d'évoluer et de grandir, elle-même a changé tout au long des rédactions successives, mais c'est aussi simplement, je dirais, Calvin, c'est Descartes, au sens où c'est une pensée de la mesure, de la finitude humaine, une pensée aussi dans laquelle Dieu est extérieur au monde, donc le monde est entièrement désensorcelé, il est entièrement mesurable, il est juste une créature merveilleuse et donc entièrement compréhensible et intelligible.
Bon, ça, cela, c'est notre point de départ.
Oui.
Mais alors, quel est le Calvin qui arrive, si j'ose dire, au Cap Cod? Quel est le Calvin qui fonde l'Amérique, en quelque sorte, alors, avec les pères de la nation américaine?
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que Calvin, sa pensée, c'est une pensée de l'exil. En fait, il a trouvé cette solution. Soit on se révolte et on rentre dans la sédition religieuse, qui est interdite par l'épître aux Romains de saint Paul, soit on se laisse brûler vif juste parce que certains prélats estiment qu'on n'est pas conforme à la droite doctrine de l'Église. Au temps des idées de Luther, ça arrivait fréquemment. Et donc la solution de Calvin, qu'il découvre par hasard pour lui-même, mais qu'il va généraliser, c'est l'appel à partir. Ne vous révoltez pas, interdiction de se révolter, mais ne vous laissez pas non plus le martyr. Il y a aucune religion de la mort chez Calvin. Calvin, c'est vraiment une religion minimaliste, extrêmement sobre. Hein, Calvin lui-même s'est fait jeter à la fosse publique, hein, c'est pas Lénine, il n'y a pas de mausolée Calvin, c'est refus de toute religion, des reliques, etc.
Oui, mais on passe pas directement de Genève aux premiers États-Unis.
Oui, mais justement, cet exil, il y a quelques lieux d'exil, et notamment la Genève, qui va devenir une île de réfugiés. Je dis une île parce qu'elle est entourée, environnée d'ennemis, et donc c'est une petite île. Et la pensée de Genève, il faut le voir, c'est un phare dans l'océan, si je peux dire. C'est un refuge dans un océan de ténèbres et de persécutions. Et donc, la pensée de Calvin va jeter par-dessus l'océan des vues vers le Nouveau Monde. Lorsque Calvin, avec Coligny, à l'époque amiral de France, lance des colonies mixtes catholiques et protestantes. À l'époque, il ne pensait pas que le protestantisme allait devenir une religion séparée. Il pensait que tout ça, c'était une mutation dans laquelle on était. Et donc, il jette des grands projets vers Rio de Janeiro.
Comme des têtes de pont.
Des têtes de pont en Amérique du Sud, Rio de Janeiro, bousculant le partage portugais-espagnol de Tordesillas. Des têtes de pont vers la Floride. Ça, c'est tout à fait le Calvin de cette époque-là. Et il faut sentir que le calvinisme, c'est une religion de l'océan. C'est la religion de l'océan. Le calvinisme, il a pris pied dans l'anglicanisme et dans l'Angleterre, il a pris pied dans les Provinces-Unies, les Pays-Bas, il a pris pied dans la France maritime, La Rochelle, Nantes, Dieppe, etc. Et la guerre de religion a été une guerre qui a été soutenue par une caisse qui s'appelait La Cause, qu'on appelait La Cause. Et cette caisse, c'était une caisse de corsaires, une caisse de flibustiers. C'est la flibuste protestante, en quelque sorte, qui a soutenu la guerre de religion. Et Henri IV était le chef du parti maritime.
Oui, mais les pèlerins du Mayflower ne sont pas des corsaires.
Non, mais il y a beaucoup de flibustes puritaines et protestantes.
D'accord.
Et même, le cœur de la flibuste.
D'accord.
C'est cette utopie d'un nouveau monde dans lequel on va. Et alors, voilà. Donc, entre les deux, il y a bien sûr quelque chose qui va radicaliser, bien après Élisabeth Ière et après les premiers grands corsaires de la reine, mais aussi de la guerre des gueux aux Pays-Bas. Mais on voit toujours ce côté maritime. Quelque chose qui va radicaliser le calvinisme, c'est la Révolution anglaise. Et alors en France, on ne connaît pas la Révolution anglaise. On pense qu'on est les premiers à avoir coupé la tête du roi, les premiers à avoir... les premiers révolutionnaires. Mais Mirabeau s'inspire de Milton. Et ils s'inspirent tous de la justification que donne Milton au fait qu'on coupe la tête du roi. Ils ont coupé à la hache la tête de leur roi. Et Milton en a donné une justification théologique. C'est quand même, il faut le faire. Hein, voyez, bon. Là, on est en pleine, le puritanisme de la Révolution anglaise, c'est ceux qu'on appelle les puritains à l'époque. Milton, c'est des indépendants, c'est des dissidents, c'est des gens qui refusent l'église anglicane et même l'église presbytérienne.
D'accord.
Donc tous les Pilgrim Fathers sont tous des dissidents qui sont jetés d'Europe, et d'abord après l'échec de la Révolution anglaise, l'échec de Cromwell, et qui vont prendre pied dans des îles, un archipel. C'est un archipel, il n'y a pas de continent, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de continuité territoriale, comme dans le monde catholique, on va dire. Donc, dans les empires, c'est vraiment, c'est l'océan, Il n'y a pas de... On est seul avec Dieu, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de pape, on est libre et on va refaire des pactes qu'on appelle des alliances, des covenants, ouais, qui sont des nouvelles alliances.
Oui, qu'on appelle le compact d'ailleurs.
Le compact, le covenant, voilà, tout ça.
Une communauté fondée sur un contrat.
Voilà.
Donc,
libre.
Donc les pèlerins du Mayflower sont en quelque sorte des dissidents dans la dissidence,
oui,
le calvinisme.
Oui.
Est un... oui. Mais alors. Il s'installe, soit, on ne va pas refaire cette histoire. Enfin, il y a aussi presque comme une réforme dans la réforme qui va s'instaurer. Parce que pour nous, le protestantisme, pour nous français, c'est la liberté de conscience, c'est la réconciliation de la foi avec la raison. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Madame de Staël, Guizot, Benjamin Constant voient dans le calvinisme une religion de progrès, disent-ils, la plus compatible avec la démocratie. Esprit de religion, disons, esprit de liberté, c'est la même chose. Mais on est tout de même bien loin, alors, de ce qu'on peut appeler la bibliocratie, c'est-à-dire d'un certain obscurantisme intellectuel et conservatisme social qui prend ses aises et même qui je dirais, prend le contrôle,
oui,
de la psychologie collective américaine. Je pense, par exemple, au rejet de l'évolutionnisme, condamné, même interdit, parce que le texte biblique est supposé infaillible. Donc on a là quelque chose qu'on peut appeler, si vous me permettez, un néo-protestantisme. J'aimerais que vous nous disiez un peu quels sont ses principaux caractères.
Oui, alors là, on fait un bond dans l'histoire, on en vient
oui,
à
on
nous
arrive
aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous n'avons qu'une heure devant nous. Nous sautons trois siècles, nous arrivons
vous avez raison.
Dans
vous
l'Amérique
avez...
du 20e
vous
ou du
raison.
21e.
Vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que pour comprendre ce qui nous arrive, il faut comprendre la puissance, je dirais, le caractère prometteur des intentions des puritains, pour comprendre aussi les retombées malheureuses de ces promesses. Un des aspects les plus fondamentaux, c'est que ce sont eux qui inventent la possibilité de quitter l'Église. Jusque-là, on a dans le monde catholique, des libertins, des libres penseurs, mais en fait, extérieurement, ils se conforment. Et donc, ils ne veulent pas sortir, quitter l'Église, sortir du monde, casser ce monde-là pour faire un autre monde librement. Et c'est ça qui est inventé par les puritains. Ça, c'est un point, je crois, très, très important,
d'accord,
même pour comprendre, je dirais, la multiplication de séparations successives de sectes que d'une certaine manière, un esprit français, un esprit catholique, je dirais, moi aussi, je suis catholique au sens où je suis français, on a du mal à comprendre ce congrégationalisme américain, ce côté complètement.
Une sorte de jusqu'au boutisme dans l'individualisme.
Voilà, c'est ça, oui. tout à fait.
Mais alors comment ça devient aujourd'hui le rejet de Darwin, le procès du singe, du XXe siècle, un fameux procès de quelqu'un qui voulait évoquer, enfin,
alors il y a des
mettre le darwinisme à l'école.
Il y a beaucoup de facteurs cumulés et qu'il faudrait analyser un par un. Par exemple, je crois que il y a une conception empirique de la vérité qui n'est pas du tout française, dans laquelle le vrai, on en fait l'expérience. C'est une expérience. Moi, j'ai été très étonné de découvrir des gens pour qui l'évangile, c'était d'abord une expérience. Et donc, Dieu, c'est une expérience. Et si on sait une expérience, il y a des témoins de cette expérience. Et donc, le témoignage, il doit être ému par son expérience. Il va être touché par sa propre expérience. Donc, il y a là un style de témoignages émus, émotionnels, vécus, de vérité vécue, etc., qui est un style tout à fait inhabituel pour nous, je dirais, vieux protestants, si je peux dire, qui avons au contraire un sens de la distance.
Du rationalisme.
Exactement.
Là, on aurait une sorte, au fond, de possible mélange explosif entre réalisme et mystique. Peut-être.
Oui, c'est ça, c'est des expériences mystiques. Mais Newton est déjà tout à fait comme ça, en fait. Ça, c'est vraiment, je dirais, anglo-saxon, simplement.
Ouais. D'accord.
Et alors là, comme aujourd'hui, on est dans l'ère du témoin, avec la com, c'est ça, quand même, qui est très important.
Ouais.
C'est que, alors moi, je dirais très... Si je disais, je vais très loin dans ma... Tout de suite, je vais être méchant, je vais dire. Face à une certaine américanisation du protestantisme, je dirais... Ce néo-protestantisme, il a cassé les canalisations. Il a cassé les canalisations comme le petit-fils...
Qu'appelez-vous canalisation ?
Alors, comme Gengis Khan, le petit-fils, casse les canalisations du Proche-Orient, du croissant fertile.
Vous voulez dire les canaux de transmission ?
Les canaux de transmission. Il y a toute une série de canaux de transmission extrêmes qui ont mis des siècles à se mettre en place et qui irriguaient, je dirais, quand même la chrétienté, je dirais, de manière très, très profonde. Et ces canaux ont été cassés par la com, d'une certaine manière. Ce qui compte, c'est la com. Et c'est pas la transmission. C'est tout à fait autre chose. Et ça, vous le dites dans votre livre, La Civilisation. Je trouve ça extrêmement important, extrêmement pertinent par rapport au protestantisme. Je trouve ça vraiment très, très, très juste en termes médiologiques. On est à l'âge de la com. Et ça, ce protestantisme-là, c'est le protestantisme des télévangélistes, hein. C'est le protestantisme de, qui pour moi est monstrueux, hein. Et parce que il veut tout le temps se montrer, il veut tout le temps paraître, il veut tout le temps, il y a une sorte de vanité du témoignage là-dedans.
Et le paradoxe, c'est que, disons, le rejet de la hiérarchie catholique, le rejet donc de la papauté, va néanmoins susciter une efflorescence de leaders, j'allais dire de petits chefs, c'est vulgaire.
Oui, oui, plein de petits leaders, c'est ça.
Et,
ouais.
Et donc, une sorte de, au fond, c'est bizarre, de mise en valeur d'un certain charismatisme.
Oui, c'est ça. C'est ça qui est curieux, parce que pour nous, au contraire, il y avait, disons, la réforme avait été plutôt une sorte de république.
Oui.
Hein, c'est une affaire commune. Il y a pas de chef. On est tous des co-citoyens ou des co-seigneurs, si je peux dire, dans ce sens-là. Il y avait cette dimension, je dirais, d'aristocratie, je dirais, étendue à tout le monde. Tout le monde peut apprendre à lire. Tout le monde peut apprendre à écrire. La lecture, elle est une lecture individuelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de piété individuelle dans la lecture biblique pratiquée quotidiennement pendant des siècles. Mais justement, c'est des méga church où il s'agit justement de faire masse émotionnelle. Et voilà, donc.
Il faut des chefs de cœur.
Il faut des chefs de cœur. Il y a des chefs.
Thank you.
Vous pouvez commenter alors ce qu'on vient d'entendre.
Alors là, nous venons d'entendre Happy Day. C'est donc vraiment le chant du gospel par excellence aujourd'hui. Et on voit très bien, à la différence d'une cantate de Buxtehude, par exemple, où il y a le chœur qui vient chanter Alléluia, tous ensemble, et je dirais d'une manière où les voix sont égales. Il y a des contrepoints, justement, il y a du différent, il y a du désaccord, mais du désaccord, je dirais, on installe une concurrence entre des voix, si je peux dire, mais d'une manière égale, d'une manière, j'aurais presque dit pas républicaine, mais d'une manière, voilà, un sentiment de l'égalité des voix, de la pluralité des voix. Tandis que là, dans le gospel, il y a quand même un chef de chœur qui lance le chant et qui est, je dirais, après répercuté, renvoyé en écho par le chœur tout entier. Et là, il y a une différence. On voit bien qu'il y a un leader. La voix, c'est la voix du leader. Et ça, c'est un point très important. C'est une grande différence.
Et le leader peut être un prédicateur.
Peut-être un prédicateur. Souvent, c'est la même chose.
Hein. Chanteur et prédicateur. Chanteur et prédicateur. Un peu comme Ray Charles.
Voilà, voilà. Et ça, alors ça, c'est déjà différent de, je dirais, du jazz ou du vieux blues, dans lequel, d'une certaine manière, chaque voix vient tour à tour montrer devant les autres de quoi elle est capable. C'est pour ça que je dis, dans la culture américaine vieille, cette vieille Amérique aujourd'hui inapprochable, aujourd'hui complètement recouverte par elle-même victime de cette com, on va dire. Bon. Eh bien, il y a dans le jazz le fait que chaque voix, chaque instrument vient tour à tour interpréter la mélodie à sa manière. Et ça, il y a une sorte d'égalité des voix. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, peut facilement disparaître dans une... Mais en même temps, c'est magnifique, hein, ce chant gospel. Et on sent aussi cette gratitude qui est extrêmement forte et qui est extrêmement motrice. Il y a une mobilité là-dedans extraordinaire.
Mais alors maintenant, Olivia Bell, permettez-moi de vous posez la question du puritanisme. À vous lire, chez Calvin, les liens de chair sont autorisés. Cette expression que vous rappelez, les liens de l'honnête volupté, pour parler du mariage, n'est-ce pas? Enfin, quand on regarde le festin de Babette, on découvre un tout autre univers. La nature ayant été souillée par le péché originel, les plaisirs de la chair, au double sens du mot, hein, de la chair et de la chair, sont sataniques. D'où, aux États-Unis, un souci d'hygiène physique, n'est-ce pas, comme siège de la valeur morale. Je pense aux mises en garde que faisait Pershing en 1917 aux troupes américaines, surtout méfiez-vous des petites françaises, n'allez pas au bordel, etc. Je pense aussi à l'incroyable affaire Clinton-Levinsky, au réquisitoire du procureur Starr, enfin cette sorte de mise à jour devant tout le monde, comme ça, de, bah, disons, des rapports sexuels, n'est-ce pas? C'est quelque chose impossible en France, je crois. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Impossible, même dans la France calviniste.
Oui, tout à fait. Ben, d'abord, je dirais qu'il y a plusieurs puritanismes. Il ne faut pas les confondre. Il y a le puritanisme révolutionnaire de l'époque de John Milton, l'auteur du Paradis perdu. Et donc là, c'est un puritanisme, au contraire, je dirais, flamboyant. Et c'est Milton qui invente le droit au divorce. Et un droit de divorce même pour caprice. Quand il n'y a plus de conversation, on peut, voilà. Donc ça, c'est le puritanisme de la Révolution anglaise. Il y a le puritanisme anglais de l'époque victorienne. Et quand on parle de puritanisme, souvent on parle de cela. Et qui a eu une influence sur l'ensemble du protestantisme, ça c'est vrai, mais pas seulement, parce que je pense que la bourgeoisie catholique en France était aussi devenue victorienne, en fait, d'une certaine manière. Cette séparation des sexes, les hommes et les femmes de côtés différents.
Ce qui frappe tout de même aux États-Unis, c'est une sorte d'exhibitionnisme dans le puritanisme.
Mais là, c'est autre chose. D'accord. C'est encore autre chose que le puritanisme bagel, je dirais, de la reine Victoria et du victorianisme britannique. Non, c'est encore autre chose. Aux États-Unis, le puritanisme, il faut penser que le puritanisme, c'est la catégorie où on est devant Dieu. Donc, c'est la catégorie de la sincérité. Et mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça à la fois la force, c'est la formation d'un sujet sincère, d'un sujet qui vit comme il pense et qui montre qu'il ne cache pas. Et on trouve ça chez Rousseau aussi. On trouve ça. Le travail de la sincérité est un travail, qui est magnifique, qui est libérateur, mais qui peut aussi devenir absolument féroce. Parce que dans la vie, il y a du mensonge. Dans la vie, il y a du décalage entre soi et soi-même, entre soi et autrui, etc. Donc, là, il y a un énorme problème, sans doute. Mais il faut commencer par comprendre que ça vient de cette affirmation ou de cette recherche de la sincérité. L'affaire Clinton, c'est ça. C'est la sincérité. Ce qui compte, c'est ne pas mentir. c'est être transparent, c'est être devant les autres comme on est. Et c'est ça le cœur du problème.
Oui, plus quelque chose d'étonnant qui nous ramène un peu à l'étymologie. Protestari, n'est-ce pas ? C'est-à-dire témoigner, mais pro, devant les autres. Devant c'est ça ce qui, pour nous, enfin, oui, la tradition catholique, oui, nous surprend, n'est-ce pas ?
Devant les autres, et on est toujours devant Dieu. Et c'est vraiment...
Que Clinton doive se présenter devant le peuple américain... pour se raconter, se disculper, c'est quelque chose. Mais se disculper de quelque chose qui serait pour nous une peccadille.
Tout à fait, tout à fait. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de l'anthropologie américaine protestante, on va dire. Mais il y a plein de choses qui ne font pas partie de l'anthropologie protestante et qui, pour nous, sont liées presque. Alors, le luthéranisme des pays nordiques, qui est présenté dans les films de Bergman, par exemple,
ou dans le Festin de Babette.
Ou dans le Festin de Babette, c'est pas spécialement. Je pense pas que ce soit spécialement luthérien. Luther n'a rien arrangé, peut-être, mais j'en suis même pas sûr, parce que vous allez prendre le luthéranisme alsacien, il ne donne pas du tout la même chose. Mm-hmm. Disons que les doctrines viennent sur des couches anthropologiques plus anciennes. Vous voyez, le calvinisme dans les Cévennes, c'est comme du calvinisme sur les Corses. Si vous voulez, c'est un calvinisme sur du méditerranéen. Mm-hmm. Ça donne une rigidité, mais une rigidité qui est déjà là. C'est la rigidité des veuves corses. Je veux dire, on a ça aussi chez les protestants des Cévennes. Alors que, par exemple, vous ne l'auriez pas. Moi, je suis en partie ariégeois, Béarn, la Gascogne. Le protestantisme du béarnais ou ariégeois n'est pas du tout comme ça. Il y a beaucoup d'adultères, il y a beaucoup de... c'est un pays qui n'a rien de cette austérité ou de cette rigidité. Je dirais que c'est Gide, la figure peut-être la plus forte. C'est peut-être Gide qui donnerait la meilleure image de l'espèce de dualisme sujet-objet ou âme-corps qui est, amplifié par un certain calvinisme.
Mais alors, pour revenir aux États-Unis, ce qui est frappant, c'est à la fois cet extrême individualisme dont vous nous parliez en commençant, doublé de cette pression sociale, doublé tout de même de cette présence du groupe sur l'individu, enfin, du fait que la confession doit se faire en public. Ouais. Ce mélange, si vous voulez, de dissidence et de conformisme est tout de même bizarre. Expliquez-nous cela.
Même on peut dire, comme le disait Michael Walzer dans La Révolution des Saints, sur la révolution puritaine, que c'est justement, ça c'est vraiment le côté révolutionnaire. Le côté révolutionnaire, c'est vraiment qu'on trouve dans la Genève de Calvin. On dit de Calvin, mais enfin, c'est tout un groupe de révolutionnaires qui vient submerger la pauvre petite ville de Genève. Il faut imaginer que la ville triple de population en quelques décennies, à cause de tous ces réfugiés qui sont pas des rigolos, qui sont tous des révolutionnaires. C'est des révolutionnaires, c'est une ville en éruption volcanique, c'est pas du tout une ville glaciaire, immobilisée par la doctrine de Calvin, c'est pas du tout ça. Il y a des femmes qui se promènent nues dans la rue de la Genève de Calvin. Pourquoi? Parce que Dieu a donné, tout est donné par grâce, et que donc il faut se donner les uns par grâce les uns aux autres. Enfin,
c'est la première phase effervescente des révolutions.
Oui, c'est ça.
Et donc, suivi généralement d'une seconde. Retour à l'orthodoxie.
Oui, mais
ce que
je veux dire, c'est qu'il y a cette dimension, comme dit Walzer, de révolutionnaire du citoyen, qui est un citoyen sans vie privée. C'est un citoyen qui est en état, il y a une sorte de communisme primitif dans la réforme, qui est très fort. C'est ça qui va être d'ailleurs retrouvé dans la révolution anglaise, et qui est très 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 fort. Mais Calvin lui-même, par rapport à la chasteté, il faut voir que Calvin est absolument opposé à la lecture que fait saint Paul du mariage. Le mariage uniquement pour canaliser les pulsions. Mm-hmm. Parce que dans l'idéal, il faudrait être chaste. Mm-hmm. Et Calvin dit, mais pas du tout. Mm-hmm. Calvin et Luther, ils disent ensemble, avec la Genèse, il n'est pas bon d'être seul. Le mariage, c'est voulu. Et même un mariage sans enfant. Il y a même, à la limite, le mariage, le Cantique des Cantiques, dans la Bible, livre que Calvin défend contre Castelion, c'est un livre où il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. C'est le pur plaisir. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, on a oublié, je pense.
Alors maintenant, puisqu'on parle... des États-Unis, aujourd'hui tel que hier l'a construit, cet hier protestant qui donne aujourd'hui ce formidable essor capitaliste et financier. Alors on pense tout de suite à Max Weber, n'est-ce pas ?
Oui.
Et à l'idée que il y a une prédestination, mais on ne sait pas si on en bénéficie ou pas. On est dans l'incertitude et donc on cherche des signes d'élection. Et le signe qui rassure, c'est l'enrichissement. Et chacun connaît, enfin, nous avons tous entendu parler, en tout cas, du livre de Max Weber qui noue l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Vous êtes d'accord avec cette thèse?
D'abord, c'est intéressant de voir que Calvin est là. C'est la faute à Calvin et c'est la faute à Calvin. Parce que Calvin, le communisme, la révolution, le contrôle social, etc., c'est pratiquement Calvin, c'est Mao Tse-tung. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, je veux dire, il y a une dimension quand il force les vieux à aller à l'école de force, hein, pour leur apprendre à lire de force parce qu'il faut lire la Bible. C'est tout à fait maoïste, d'une certaine manière. C'est vrai que, et je dirais, il m'est arrivé dans le livre, là, je dis que Staline à côté de Calvin, c'est un député UDF.
Il ne faut pas atténuer
la force du profil, en effet, de Calvin. Ça. Mais Calvin, c'est aussi le capitalisme. C'est ça qui est drôle. C'est qu'il y a... Alors, il faut comprendre pour cela la prédestination, le thème, l'idée de prédestination, oui, qui est une vieille idée qu'on trouve chez saint Paul, qu'on trouve chez Augustin, qu'on trouve chez saint Bernard. C'est une doctrine de base de l'Église. Simplement, chez Calvin, ça devient pragmatiquement quelque chose de tout à fait important pour lui, qu'il va redire de cette manière-là, et qui est l'affirmation que nous sommes délivrés de ce souci par Dieu. C'est-à-dire, en fait, la question du salut, la prédestination, c'est une délivrance.
Alors, il faut que vous expliquiez. Oui, oui. C'est une délivrance parce qu'on...
C'est la délivrance d'une angoisse, oui, de l'angoisse du salut. Parce que...
Oui, ben, moi, je peux être angoissé si je suis protestant, j'aimerais tout de même savoir si je suis ou non élu.
Non. Ça veut dire que vous n'êtes pas protestant.
Ce qui est un fait.
Voilà. Je pense qu'un quelqu'un qui a entendu le message de Luther, ce qui était le cas pour Calvin, il est soudain, mais c'était existentiel. Ils vivaient tous sous une angoisse du salut et de la damnation absolument épouvantable. Et arrive Luther qui dit, mais c'est pas votre affaire, c'est l'affaire de Dieu.
Mais
confiez cela à Dieu, c'est pas votre affaire. C'est ce que dit Calvin à l'évêque de Genève, ça donnait en disant, c'est très important le souci de l'âme, le souci de soi-même, mais la meilleure manière de vous soucier de vous-même, c'est de confier ce souci à Dieu et de ne pas vous en soucier.
Bah écoutez, tout de même, moi je regarde le festin de Babette.
Oui.
Je vois cette congrégation nordique de visage crispé, anxieux, sachant qu'est-ce qui va se passer, se méfiant de tout, vivant dans un état d'anxiété pathologique.
Mais exactement parce que, comme dit la Boétie, qui reprend exactement l'idée de Luther, du serf-arbitre, c'est que nous préférons être esclaves de notre angoisse qu'être libres. La liberté est beaucoup plus inquiétante. Et c'est ça que Calvin a eu du mal, et tous ses proches, toute cette génération-là a eu du mal à comprendre. C'est que, pour eux, c'est une libération, c'est un insouci de soi, on n'a pas besoin de se soucier, de se préoccuper de soi-même, et du coup, on peut reporter le souci sur les autres. On ne se soucie pas des autres, de soi-même, on peut se soucier des autres, on peut se soucier du monde. Ça devient un ascétisme intramondain, comme disait Max Weber. Mais je vais vous donner un exemple. Mon grand-père, instituteur, fils de paysan ardéchois, du haut plateau ardéchois, du côté du Chambon-sur-Lignon, là-haut, vous voyez le haut plateau. Mon grand-père, instituteur, il a lu Victor Hugo. Mais de l'autre côté, c'est un calviniste, il a lu la Bible. Et je me rappelle enfant, une fois, et j'avais comme ça 8-9 ans, et il me prend sur ses genoux, il me dit, tu vois Olivier, je ne parviens pas à concevoir que le salut ne soit pas universel. Son angoisse, ce n'est pas du tout l'angoisse pour lui-même. Alors là, il est complètement insouciant de lui-même. La grâce, c'est l'insouci de la grâce. Je n'ai pas à m'en occuper de moi-même. Mais en revanche, les autres, je me soucie pour les autres et je me soucie pour le monde. Ça oui, là il y a une angoisse pour les autres et il y a une angoisse pour le monde. Est-ce que le monde est sauvé? Le problème, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que après Wesley, le méthodisme, après le XVIIIe siècle, où il y a une sorte de réveil piétiste dans lequel chacun va se soucier de soi-même, on va avoir un énorme retour du souci de soi, du souci du souci du salut individuel, d'une certaine manière, qui est quelque chose qui est complètement à contre-pied du message de la réforme.
Comment tout cela débouche sur le culte du dollar, la libre entreprise?
Ah ben justement, parce qu'on est revenu dans cette angoisse et dans les manipulations de l'angoisse de la culpabilité, de la damnation et du salut, eh ben du coup il faut des preuves du salut. Et les preuves du salut, on peut les prendre de mille manières, mais en gros, les preuves du salut, c'est faire comme si on était sauvé et montrer les preuves, les signes qu'on est sauvé, c'est que c'est la prospérité. C'est absolument absurde, parce que c'est absolument... Je ne dis pas qu'il n'y a rien dans le texte biblique qui ne soit comme ça. Hein. On le voit dans le livre de Job. Les amis de Job lui disent, mais tu vois bien que Dieu t'a abandonné puisque tes enfants sont morts, etc. Donc, il y a dans le texte biblique aussi déjà une protestation, mais aussi ça veut dire que cette théologie existait, cette théologie des récompenses et des punitions, on va dire. Bon. Mais aussi faire du l'audimat, faire du chiffre, plus on a de succès, on va dire, dans sa prédication, plus ça montre qu'on est béni par Dieu. Et ça, c'est vraiment une perversion, mais épouvantable. Et là, c'est là-dessus que le vieux calviniste, entre guillemets, que je suis quelque part, se révolte contre ce néo-protestantisme.
Donc l'américanisme est un déviationnisme.
Ah oui, on a dévoyé complètement, on a perdu ce sens de l'insouci de soi qui était véhiculé par l'idée de prédestination.
Alors, il y a quelque chose dans la mentalité américaine qui est l'optimisme. Et on pourrait penser que c'est paradoxal, parce que si on insiste sur la nature pécheresse de l'être humain, on pourrait plutôt s'orienter vers une sorte de morosité augustinienne, alors que les États-Unis, c'est le pays à la fois de l'énergie et de la brutalité, mais c'est un pays optimiste. Comment expliquez-vous cet optimisme, je dirais, individuel et collectif? On peut recommencer sa vie, oui. Tout est possible, rien n'est perdu, oui. Happy end, etc.
Ouais, ouais, ouais.
Comment, d'un point de vue calviniste, comment expliquez-vous cela?
Ouais, c'est une super question. Il faut comprendre que la grâce n'est pas le terminus ad quem, ce vers quoi nous allons, l'espèce de grand estuaire final au débouché de toutes nos vies, et à la fois individuelles et collectives, comme une sorte de couronnement que c'est, dans la mystique catholique, qui me semble très, très importante. Mais dans une psychologie vraiment protestante, la grâce, c'est le terminus a quo, c'est-à-dire c'est ce dont on part. De toute façon, c'est pas seulement, la grâce n'est pas ce qui nous sauve de la damnation. La grâce, c'est déjà la grâce d'exister. L'existence est une grâce. Toute existence est une grâce. Le monde est une grâce. Tout nous est donné. Thanksgiving. Tout nous est donné parce que les premiers gestes une année après l'arrivée des Pilgrim Forever là-bas, au Cap Cod, c'est justement Thanksgiving. C'est vraiment merci.
D'accord.
C'est l'Alléluia. Et ça, on le retrouve aussi chez Luther, on le retrouve chez Calvin. C'est d'abord l'Alléluia. C'est d'abord merci. C'est d'abord cette gratitude, c'est vraiment le geste fondamental. Mmh. Et donc, du coup, puisque la grâce, c'est un point de départ, ça veut dire qu'on est en train de tout recommencer. On peut recommencer sa vie, on peut recommencer le monde. Calvin ne fait pas du tout, il commente tous les livres bibliques, mais il ne va pas commenter l'Apocalypse. On n'est pas à la fin du monde. La fin du monde, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas notre affaire. Nous, on est en train de commencer à vivre
D'accord.
dans ce monde-ci. Donc
D'accord.
là, c'est le côté optimiste.
D'accord.
Alors maintenant,
donc ce sont de bons calvinistes. Alors,
de ce point de vue-là, c'est tout à fait d'accord. calviniste, luthérien, d'accord. c'est tout à fait réformé. Non, ce qu'il y a peut-être, c'est vrai qu'il y a un pessimisme anthropologique qui a été géré un peu accentué dans la ligne janséniste, dans la ligne de l'augustinisme, hein, bon,
ouais.
mais qui existe aussi chez Calvin, qui existe dans toute la théologie chrétienne. Il y a toujours cette ambiguïté. Et comment est-ce qu'on fait avec cette ambiguïté? Mais en même temps, Calvin, je dirais, c'est quelqu'un, et c'est important de le sentir, c'est quelqu'un pour lequel il y a aussi cette dimension, je dirais, positive de... Il ne s'agit pas seulement de « tu ne tueras pas », il ne suffit pas de ne pas tuer, il faut aller se porter au secours de la vie de ceux qui sont menacés par la mort, que ce soit par quoi que ce soit. Donc, c'est l'amour du prochain. Il ne suffit pas simplement... Je dirais de rendre un culte, d'obéir à Dieu, je dirais négativement, craintivement.
Oui, oui, oui.
Il faut, Dieu nous a donné la vie, c'est à nous d'en faire quelque chose.
Oui.
C'est des talents, on nous a donné des talents, il faut en faire quelque chose dans la vie.
On l'a vu sous l'occupation, avec la façon dont les protestants se sont portés au secours des juifs persécutés.
Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours, il y a cette dimension de retournement vers du positif,
oui,
qui
oui,
est très important,
oui,
même chez,
oui,
là, chez les Quakers,
oui,
etc.
Oui.
Et donc, le mal, il y a du mal, bien sûr. Il y a de la chute, mais ça fait partie de l'histoire de la liberté, comme on trouve chez Milton ou chez Kant. Kant, de ce point de vue-là, est un très bon luthérien. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la liberté si on n'a pas été mis en liberté? Et si on est mis en liberté, forcément, il va y avoir la chute. On va se casser la gueule.
D'accord.
Mais comment est-ce qu'on va apprendre à être libre si on ne se casse jamais la gueule?
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Ça, c'est vraiment ce
d'accord.
sens, je dirais, ce sens
d'accord.
épique. Il y a un sens
d'accord.
épique, là.
D'accord. Alors maintenant, nous avons évoqué l'allée de, j'allais dire, de Genève vers New York. Je voudrais maintenant qu'on réfléchisse au retour.
Voilà, ça c'est le problème.
C'est-à-dire à cette arrivée en boomerang, pour ainsi dire, d'un néo-protestantisme, enfin, qui d'ailleurs passe souvent par les Antilles, par l'Afrique, par les Tziganes d'ailleurs.
Oui.
Enfin, est-ce que ce retour chez nous, est-ce un revival? Est-ce un réchauffement climatique pour votre protestantisme, j'allais dire, à la française, à la genevoise, ou est-ce une déstabilisation? Par exemple, j'ai toujours entendu dire, d'ailleurs je l'ai constaté, qu'il y a une vieille horreur des calvinistes pour la danse. Mais dans le culte néo-évangélique, dans ces grands hangars, on installe un écran, et puis il y a la batterie, il y a le saxophone, on se met à danser.
Oui. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, yes, I wanna be in that number.
États-Unis, un commerce équitable. Régis Debray, Olivier Abel.
On se met à faire de la musique, on se met à vibrer ensemble. C'est physique, c'est charnel. Il y a là peut-être quelque chose qui peut corriger un certain embourgeoisement. Autrement dit, ma question serait celle-ci. Le temple à l'ancienne, façon européenne, va-t-il devenir un lieu de mémoire? Et la salle Omnisport de Bercy, celle où Billy Graham vient évangéliser la France, va-t-elle devenir le grand lieu de culte ou le lieu de culte idéal? Alors, comment faites-vous, si vous me permettez l'expression, pour sauver les meubles?
Voilà, ouais. C'est vrai que je sens une énorme différence. Alors, bien sûr... Le fait que le calvinisme ait pris pied dans sur d'autres socles anthropologiques, je dirais que le socle, par exemple, des Cévennes méditerranéennes ou du Danemark, ça donne encore autre chose. Bien sûr, au Congo, ça donne autre chose. Dans les Caraïbes, ça donne autre chose. Etc. Et ça, c'est magnifique. C'est intéressant de voir comment les mêmes idées peuvent prendre corps de manière différente. Donc ça, ce serait le côté plus que positif. Mais... Non, moi, c'est vrai que ce qui m'inquiète, c'est quand même ce, comme je disais tout à l'heure, qu'on a cassé les canalisations et d'une certaine manière, comment une mondialisation ne cesse de casser les canalisations et les transmissions. C'est valable aussi pour l'islam, c'est valable aussi pour le catholicisme, etc. Et comment, du coup, on réinvente, je dirais, des formes de vie religieuses de plus en plus, je dirais, qui ont la mémoire de plus en plus courte et qui sont de plus en plus des feux de paille et qui peut-être ont de l'espoir, mais un espoir qui est un espoir très présentiste et qui n'est pas appuyé sur une vaste mémoire et une amplitude d'un rapport à un lointain dans le futur, un rapport à un ancien, un lointain dans l'ancien et un lointain dans l'espace non plus.
Si en quelque sorte, peut-être la fin de la théologie et le retour de la croyance toute nue,
oui.
C'est-à-dire le bonheur d'être ensemble, de se confier à Dieu en oubliant un peu, je dirais en oubliant même peut-être complètement toutes les traditions de mise en forme du message de la foi, tout le travail intellectuel qui
vous
a été
raison.
Fait depuis des siècles en Europe. Vous êtes submergé peut-être par une vague émotionnelle.
Émotionnelle, voilà. Et je pense que nous sous-estimons dans la France aujourd'hui, où nous avons mis complètement de côté la théologie. La théologie, c'est une affaire presque une affaire privée. Déjà, la religion est une affaire privée, la théologie presque encore plus, je dirais. Parce que ce qu'on voit, c'est le fait religieux, c'est-à-dire les choses visibles. Mais la théologie, ça se voit pas parce que c'est trop gris, c'est trop théorique, c'est trop ça. Alors que je pense que la théologie, c'était ce qui aidait à canaliser, à instituer, donc qui instituait la pluralité, qui instituait de l'épaisseur historique, et donc instituer de l'interprétation, justement, qui formait des sujets capables d'interpréter. Mmh. On a cessé, à l'époque de la Réforme, justement, de former aux Grecs, à l'hébreu, etc., des interprètes crédibles. Mmh. Et aujourd'hui, on est en train de casser ces canalisations de, je dirais, des humanités, hein, de la théologie comme humanité, à la fois histoire, langue, philosophie, etc., pour avoir directement du témoin, on va dire. Ça, c'est tout à fait effrayant. Et pour nous, alors pour nous, je dirais, protestants français, si nous n'avons plus cette intelligence, je dirais, au sens pluriel, cette pluralité, cette épaisseur-là, eh ben, nous n'avons plus grand-chose, parce que finalement, c'était ça notre bagage, si je puis dire, il était là. Si nous ne sommes même plus capables de penser ensemble, d'interpréter ensemble à plusieurs, mais ça veut dire aussi, du coup, de penser ensemble, si nous n'avons plus cette capacité intellectuelle, les protestants étaient des intellectuels.
Aujourd'hui, et un protestantisme aujourd'hui désintellectualisé.
Complètement désintellectualisé.
Mais qui peut produire un réchauffement.
Oui.
J'entends bien. D'un peu guindé, peu collet monté.
Voilà.
Dans l'image qu'on se fait, en tout cas, du protestant en France. T'entends d'un protestant qui chante, qui se dandine, qui se trimousse,
avec
d'admirables voix,
exactement.
De femmes, etc.
Et puis,
moi, je trouve que c'est tout de même réconfortant.
Absolument. Vous avez raison. Et je dirais aussi, en plus, c'est que c'est un protestantisme de classe ultra-populaire et je dirais aussi de rescapés. C'est un protestantisme lié à des migrants. Parce qu'en fait, le protestantisme, depuis Calvin, je disais, c'est le sens de l'exil. Le protestantisme c'est une religion qu'on peut emmener avec soi parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Oui. On a la Bible. Oui. C'est une religion portative. On n'a pas besoin de grandes installations rituelles. C'est une religion ultra portative. Donc, avec pas grand chose, on peut recommencer, refaire une nouvelle église, refaire un nouveau monde. Je dirais Robinson Crusoe déjà. Mmh. C'est le colon, je dirais dans toutes. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à des colons. C'est à ceux qui nous reviennent d'Afrique, le protestantisme qui nous revient d'Afrique, qui nous revient d'Asie, qui bientôt va nous revenir de Chine. Ce protestantisme de ces populations déplacées, de ces populations en migration, qui sont de plus en plus nombreuses à la face du monde, et bien justement là on a affaire vraiment à cette religion de rescapés, cette religion portative. C'est une religion extrêmement émouvante. Moi j'ai vu au Congo un minibus, tout petit minibus avec dedans peut-être 40 personnes, on ne sait pas comment ils arrivaient à tenir là-dedans, il était complètement déglingué, et sur le minibus était écrit l'inscription, tirée je crois de l'Épître aux Galates, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors là, il y a une pêche énorme, quoi. Il y a une énergie incroyable.
Il y a là un peu comme un prêté pour un rendu, si j'ose dire.
Oui.
Les anciens colonisés viennent vous recoloniser.
Voilà, exactement. Nous sommes recolonisés.
Le colon Olivier Abel se retrouve, non pas assujetti, mais pris dans la grande marée sensorielle, chaleureuse, des anciens colons qui débarquent dans le lieu de culte évangélique. Mmh. Et alors, le lieu de culte, parlons-en d'un mot, n'est-ce pas ? Il était discret, il était confiné. Maintenant, ce sont des usines désaffectées, des hangars, des grandes salles de sport. Enfin, tout ça prend une autre dimension américaine, si vous voulez dire. Il y a un changement d'échelle de mesure.
Mais tant que
les masses rentrent dans des lieux de rassemblement et non pas de recueillement.
Oui.
Ça doit être pour vous un peu gênant, non ?
Vous savez qu'on avait pris l'habitude d'être un peu seul avec Dieu. Ça, c'est certain. Si vous voulez être seul avec Dieu, là, vous allez dans un temple protestant des Cévennes, là, vous êtes sûr d'être seul. Non, je plaisante, mais c'est sûr que c'est un vrai changement. Mais au fond, quand même, le fait que ce soit des espaces précaires.
Oui.
On se retrouve à l'époque du désert, on n'a pas besoin de grand-chose. Là, il y a une grande proximité. On n'a pas besoin de grandes cathédrales, on n'a pas besoin de grandes salles suréquipées. Il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est un culte, je disais, c'est un culte. Les arts protestants sont des arts de l'éphémère. C'est des arts de la voix, c'est des arts de la danse, c'est des arts de l'interprétation éphémère. C'est une parole, c'est une action qui après s'efface et au suivant, de donner son chant, sa voix, etc.
D'accord. Alors, Jean Bobéro posait la question dans un livre récent, « Le protestantisme peut-il mourir ?» Mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il ne pourrait pas aussi bien se renouveler avec ce que vous appelez une religion portative ? Parce que nous vivons à l'époque des mobilités, à l'époque des migrations, à l'époque des sans-domicile fixe.
Tout à fait.
Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Tziganes ont été, je dirais, les premiers protestants de France. C'est faux au sens historique, mais il y a eu là chez les Tziganes un évangélisme très fort. Et donc, j'ai presque envie de vous demander, est-ce que le protestantisme n'est pas la religion de l'avenir, d'autant que, à l'âge numérique, l'individu court-circuite les institutions. L'individu court-circuite les corps intermédiaires. Est-ce que le geek, comme on dit, n'est pas un calviniste en activité, un calviniste sans le savoir?
C'est vrai. Alors donc, par exemple, la Seine-Saint-Denis, c'est un département où il y a aujourd'hui plus de protestants que de catholiques. Et je pense qu'on parle beaucoup, enfin, on a très peur de l'islam, mais je pense qu'on aurait raison de faire un tout petit peu attention parce que les grandes migrations qui se préparent pour le siècle qui vient nous viendront d'Afrique, qui est d'abord un continent protestant.
Oui.
Et quand on va à Kinshasa, Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone protestante du monde.
Oui.
Bah oui, c'est gigantesque. Nous ne mesurons pas ce qui se prépare, si je puis dire. Et donc là, il y a des évolutions énormes. Simplement, est-ce que nous aurons la force de rentrer en émulsion avec eux?
Et de les assimiler.
Eh ben, les assimiler, vous voyez, là, on est très on est très peu nombreux.
Qui va acclimater qui?
Voilà. On est très peu nombreux. Pour faire ce travail d'émulsion, on cherche pas à tout prix à les assimiler ou à les intégrer. Mais au moins qu'il y ait un travail d'émulsion, une sorte de correction mutuelle. Parce que moi, j'ai des choses à leur reprocher.
Et alors, comment faites-vous pour trouver un équilibre entre votre tradition genevoise les traditions de Kinshasa?
La mienne n'est pas genevoise, parce que la mienne, elle est française. La mienne est d'une tradition de minorité. Pour moi, c'est très important qu'il existe des minorités. Et donc, ma tradition est une tradition... D'ailleurs, le calvinisme a souvent été une religion minoritaire. Et dans les pays où elle a été majoritaire, comme dans les Pays-Bas, les Provinces-Unies, au moment où le calvinisme était la religion officielle, c'était néanmoins un pays où il y avait des catholiques, des anabaptistes, des dissidents de partout, etc. Et des juifs, Spinoza, etc. Donc, il faut sentir ce côté profondément minoritaire qui n'est pas forcément la Genève. Genève est une ville un petit peu particulière.
J'ai envie presque de vous poser une question d'ordre musical. Est-ce qu'on peut encore écouter du Bach ou de la musique, si j'ose dire,
écoutons.
Protestante traditionnelle dans ses hangars et ses salles omnisports?
C'est la bonne question. C'est tout à fait, à mon avis, c'est profondément possible. Ça devrait être possible. Et c'est tout à fait, cette question, c'est vraiment ça. Ça suppose de sortir de deux choses. D'abord, de sortir de l'exclusivisme. Il faut que le protestantisme évangélique, et je dirais le néo-protestantisme, qui a tendance à être un petit peu exclusiviste, fondamentaliste. Alors, moi, j'ai accès au vrai texte biblique, et moi, j'ai une vraie expérience. Toi, tu n'as pas une vraie expérience de Dieu. Toi, chez toi, c'est mort. Chez toi, c'est complètement, etc. Et donc, ce côté exclusif dans lequel nous sommes les seuls vrais témoins, ça veut dire qu'il n'y a pas une pluralité de témoignages. C'est possible d'écouter des voix différentes, c'est vraiment une condition qu'il y ait des interprétations différentes, des voix différentes, des cultures, des formes de culte différentes, avec la forme luthérienne, la forme psaume de Marot à la calviniste, le gospel, etc. Toutes ces formes différentes doivent être possibles en même temps, à condition d'accepter le pluralisme. Ça, c'est la première condition, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la possibilité du pluralisme. Ça, c'est pas du tout acquis théologiquement, et je dirais même anthropologiquement. Il y a ce côté-là. Et puis, il y a une deuxième chose qu'il faut casser. Et ça, c'est encore moins facile à l'âge de la com et je dirais à l'âge des réseaux. On est dans l'âge de la mondialisation, dans l'âge où sur l'océan, où il n'y a que des langues et des cultures en concurrence les unes avec les autres. Pour se défendre, pour exister, il faut se boucher les oreilles aux autres et il faut faire des bulles, des arches de Noé, complètement closes, non plus intégriste, ni même fondamentaliste. Le fondamentalisme, il est un peu dépassé. Le fondamentalisme, il est lié à l'âge scientiste, où la Bible, on la prend comme une théorie scientifique. C'est une doctrine qui apparaît à la fin du 19e siècle. C'est pas du tout ancien, le fondamentalisme. C'est très nouveau, ça va avec le positivisme. C'est de cet âge mental, là, je dirais. Non, ce qui est nouveau, là, maintenant, c'est qu'à l'âge des réseaux, on a des arches de Noé, des bulles, qui sont complètement, je dirais, intégralistes. C'est-à-dire, en fait, elles sont entièrement équipées. On peut passer sa vie dans son milieu dans lequel on va vous dire, depuis l'enfance, vous allez aller dans des écoles évangéliques, vos hôpitaux seront évangéliques, vous serez dans une bulle dans laquelle il y a une vision du monde et une forme de vie entièrement cohérente. Et ça va avec l'idée de born again. Born again, c'est, il faut que toute la vie soit refaite conformément à la forme de vie qu'on imagine être la bonne et la seule bonne.
Sans héritage et sans tradition.
Sans tradition et sans pluralité. Il n'y a pas un monde commun avec plusieurs visions du monde. Non, il y a une seule forme. Et ça, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Cet intégralisme dans lequel des gens s'encapsulent dans un monde tout équipé et dans lequel il n'y a plus d'altérité, il n'y a plus rien d'autre. Et là, je pense qu'il n'y a plus aucun espoir. C'est extrêmement dangereux.
Enfin, dans un monde où la bande-son peut être librement choisie, notamment sur un Walkman...
Ah, mais ça va avec le choix.
On peut donc... Le protestantisme offre toute une gamme, si je dirais, possible de choix, y compris de choix musical.
C'est ça qui m'inquiète, c'est ce choix. Vous voyez, on choisit, mais après, une fois qu'on a choisi, on est dedans. On ne rencontre pas autre chose que ce qu'on a choisi.
Mais alors, pour finir, Olivier, j'aimerais... vous posez une question que Tocqueville se posait, d'ailleurs que j'ai découverte chez Tocqueville, pour lequel ce qu'il appelait finalement les folies religieuses valent mieux, somme toute, que l'indifférence religieuse. Pour Tocqueville, le danger qui pointait à l'horizon des démocraties pour l'avenir, c'était l'indifférence religieuse. Est-ce que vous partagez cette crainte d'un progressif effacement des traditions religieuses ou encore la transformation d'une religion en simple culture, c'est-à-dire d'habitudes qui ne sont plus pensées ni peut-être même senties et qui sont conformistes.
Oui, les religions sont dangereuses. La religion, c'est vraiment l'expression de forces de rapprochement. Et les forces de rapprochement créent des frottements et créent de la chaleur et créent de la fusion éventuellement.
Et de l'exclusion.
Et, du coup aussi, voilà. Oui. Et donc, mais c'est comme l'amour. L'amour, c'est des forces de rapprochement. C'est pour ça que c'est Rousseau, à mon avis, qui est l'auteur intéressant pour ça. Pensez le rapprochement et pas seulement la justice. La religion, c'est l'empathie, c'est la compassion et c'est pas la justice. Ça peut aussi, après, redonner des formes de justice, inventer des formes de justice. Mais c'est d'abord la remise à la masse commune, si je peux dire. C'est ces forces de rapprochement. Et ces forces de rapprochement, elles sont extrêmement... C'est comme des volcans. C'est extrêmement dangereux, mais c'est extrêmement... Une fois que ça se refroidit, c'est extrêmement fertile. Il y a un problème de canalisation. Il faut canaliser ces énergies. Mais si elles sont bien canalisées, finalement, ça fait quelque chose de très fertile. Et les meilleures cultures se font au pied des volcans. Et gérer de la même manière. On a besoin de noyaux religieux pour irriguer, pour donner des forces humaine de rapprochement et pas seulement de juste distance et de bonne distance qui peuvent finalement devenir trop froides. Des sociétés sans religion peuvent devenir des sociétés trop froides. Mais c'est dangereux. Alors, j'aurais envie de dire, le danger aujourd'hui, c'est un petit peu le scepticisme. C'est de croire que finalement, il n'y a plus que des autres. Et de ne plus pas voir que nous-mêmes, nous avons, nous faisons civilisation, nous faisons corps avec... Il faut accepter d'avoir un corps, accepter d'avoir une langue, accepter d'avoir une tradition, accepter d'être quelque part pour rencontrer autre chose. Paul Ricoeur disait, pour rencontrer un autre soi, il faut avoir un soi. Modestement, il faut accepter d'avoir un corps, d'être quelque part. Et c'est comme ça qu'on peut sortir même de soi-même, qu'on peut rencontrer autre chose que soi-même.
Et M. Macron nous mettait en garde dans son premier discours contre l'ironie. Bon élève de Ricoeur en ce sens, Ricoeur dont vous gérez, dont vous avez construit le fond. Merci Olivier de votre franchise et de votre science qui n'exclut pas l'émotion.
Merci à vous.
C'était France-États-Unis, un commerce équitable, par Régis Debré. Aujourd'hui, Olivier Abel. Prise de son, Lidouine Caron. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet.
Alléluia.